La Pentecôte, vous le savez tous, c'est la fête du don de l'Esprit et aussi la fête des langues de feu qui sont venues se poser sur chacun des disciples. Cette fête est bien connue, mais le problème, c'est que je crois que ça n'est pas très clair pour beaucoup de gens. En effet, d'abord, quand on parle de Saint-Esprit, très peu savent exactement de quoi il s'agit. Et parmi les questions qu'on pose souvent aux pasteurs, c'est ça. Finalement, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour le savoir, vous viendrez une autre fois, ce sera l'objet d'une autre prédication. Mais aujourd'hui, je voudrais m'interroger sur autre chose qui n'est pas beaucoup plus simple, c'est ces histoires de langues de feu. Qu'en est-il aussi de ces langues de feu venues sur les disciples ? Et comment se fait-il que, finalement, cette fête qui fait allusion à deux choses auxquelles personne ne comprend rien ait pu devenir une si grande fête ? Alors, les langues de feu, je préfère aborder ça directement parce que, vous le savez, étant un affreux rationaliste, je ne crois pas trop que de vraies flammes soient venues se poser sur la tête des disciples au risque de brûler leurs cheveux et que, par conséquent, ce n'est sans doute pas un phénomène de type physique qui a pu arriver et que c'est sans doute autre chose. Y étant moi-même un lecteur de la Bible, évidemment, je comprends que quand il y a des choses comme ça dans la Bible, il faut se dire qu'il doit s'agir d'un symbole quelconque. Pour trouver le symbole, c'est simple, là encore, c'est une vieille règle d'interprétation biblique, que quand on veut comprendre ce que veut dire une chose, il faut se demander, ce serait une allusion à quoi d'autre ? Or, le feu, ça, je sais ce que c'est, parce qu'en effet, il y a dans l'Ancien Testament un feu très important, qui est le buisson ardent. Vous savez, Moïse qui monte sur le mont Horeb, et là, il voit Dieu lui-même qui apparaît sous forme d'un buisson ardent, d'un buisson en flamme, et que c'est ce buisson qui, pour lui, symbolise la présence de Dieu. Peu de temps après, il va remonter sur ce même mont Horeb, et il va recevoir la loi. Mais tiens, d'ailleurs, je ne suis pas du tout en train de m'égarer, parce que je parle de ce don de la loi. Mais vous savez certainement qu'avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte était une fête juive. Et cette fête juive était, et est encore, précisément la fête du don de la Torah, c'est-à-dire la fête de la réception de la Torah par Moïse sur le mont Horeb ou sur le mont Sinaï. Enfin, c'est le même mont, en fait, on ne sait pas très bien. Donc vous voyez qu'on est bien là dans cette logique, et je crois que c'est là qu'il faut chercher quelque chose. Et tout à coup, on se dit... Il y a une allusion au buisson ardent, une allusion au don de la loi sur le mont Sinaï. Et finalement, quel décalage y a-t-il entre l'ancienne histoire et notre nouvelle histoire ? Eh bien, il y a là une façon de réinterpréter l'événement d'une façon très intéressante, parce que dans l'Ancien Testament, il y a un seul buisson ardent, il y a une seule flamme sur le sommet de la montagne. Et cette flamme, elle va être vue par Moïse, tout seul. Moïse voit Dieu, Moïse est le seul qui entend Dieu, Moïse est le seul qui ensuite redescend et qui parle dans une seule langue pour un seul peuple. Et donc, autrement dit, nous avons là, au départ, quelque chose qui est médiatisé par un homme, et tout à coup, dans la Pentecôte, on a un autre type de religion, c'est que ce buisson ardent n'est plus un buisson collectif, donné à un homme qui doit le médiatiser pour tout le peuple, mais il est offert à chacun des fidèles. Autrement dit, nous avons là une nouvelle révélation de Dieu, qui n'est plus une révélation globale, mais une révélation individuelle. Et chacun de ceux qui étaient dans cette chambre haute, dans cette salle où étaient les disciples, chacun va avoir son propre petit buisson ardent sur la tête. Et ainsi, vous voyez que il y a quelque chose de très différent. L'Esprit est donné à chacun, la parole est donnée à chacun, et non seulement cela, mais aussi chacun a la parole. Alors qu'avant, il n'y avait que Moïse qui avait la parole. C'est lui qui parlait au nom de Dieu. Mais chacun a l'Esprit, chacun reçoit la parole, et chacun peut prendre la parole. Et vous voyez qu'on passe donc d'une sorte de religion un peu globale à une religion plus individuelle. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui plaît beaucoup aux protestants que je suis, parce que les protestants adhèrent à cela depuis toujours, avec cette célèbre formule de Nicolas Boileau, quand on dit « chaque protestant est un pape, la Bible à la main », je dirais qu'en lisant ce récit de la Pentecôte, je dirais que chaque protestant est un Moïse rencontrant lui-même Dieu sur le sommet du Sinaï et entendant de ses propres oreilles ce que Dieu a à lui dire et trouvant pour lui-même la loi qui lui est proposée par Dieu. L'affaire va plus loin parce que il y a là, cela dit, une querelle. Je vous ai lu ce texte de la Pentecôte en pensant que probablement vous vous diriez quelle barbe, je le connais par cœur, mais il faut lire de plus près les textes et peut-être il y a une chose qui vous a échappé, enfin je l'espère, c'est que le texte ne précise pas quels sont ceux qui reçoivent ces langues de feu. Et là, il y a deux interprétations possibles. Il y a ceux qui sont les tenants d'un système clérical et qui disent « n'ont reçu les langues de feu que les 12 apôtres ». Et ensuite, eux reçoivent la lumière et puis c'est eux qui parlent pour endoctriner la foule, en quelque sorte. Mais cela dit, le texte ne dit pas qu'il n'y avait que les 12 apôtres. Moi, je lis le texte même avec ce qui précède et j'ai l'impression que ce ne sont pas que les 12, mais tous les disciples qui ont reçu les langues de feu. Autrement dit, il n'y avait pas que 12 langues de feu, comme ont voulu le mettre certains des tableaux de la Renaissance qui représentaient les 12 apôtres avec leurs 12 flammes de feu. C'est parce qu'à ce moment-là, on était dans une lecture cléricale de l'Évangile et de l'Église. Mais en fait, le texte semble bien indiquer que tous ont reçu les langues de feu. Autrement dit, voyez-vous, ce ne sont pas uniquement les évêques, les prêtres ou l'Église qui reçoit l'inspiration du Saint-Esprit et qui parle pour un pauvre peuple qui, lui, ne reçoit rien du tout et qui doit juste obéir et écouter. Mais cette idée fondamentale de la Réforme, que chacun, tous ceux qui étaient présents, ont reçu l'Esprit et tous ceux qui étaient présents reçoivent directement de Dieu la parole. Alors ça me semble effectivement essentiel, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel, en quelque sorte. Et de dire que la présence de Dieu soit comme un feu qui nous est donné est quelque chose d'assez extraordinaire et que j'aime beaucoup. Parce qu'en effet, c'est pour dire que cette présence qui est donnée, cette présence de Dieu quand Dieu s'offre à quelqu'un, eh bien c'est quelque chose qui le réchauffe, qui éclaire sa vie, bien sûr, qui illumine sa vie. Et donc dans le feu, on a ces deux dimensions, l'une qui est de la chaleur, parce que le feu, ça fait du bien, et ça console, ça donne de la force, du soutien, autrement dit. Et puis, par ailleurs, le feu, c'est aussi une lumière, surtout à l'époque où on ne s'éclairait qu'avec des lampes, avec une flamme. Et donc, le feu, c'est aussi la lumière pour avancer. Et du coup, on voit que cette présence de Dieu qui est offerte, elle est à la fois un soutien personnel, une aide personnelle et aussi une lumière pour avancer. Alors me direz-vous, oui, mais le feu, ça peut aussi détruire. Eh bien non, pas du tout, pas là en tout cas. Puisque le texte dit bien dans l'Exode que Moïse voit un buisson et que le prodige, c'est que ce buisson brûlait sans se consumer. Et donc c'est bien un feu qui ne fait qu'éclairer et réchauffer et pas un feu qui détruit. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui détruit, et ce n'est pas un Dieu qui fait du mal d'aucune manière. Donc voilà, ses disciples reçoivent tous cette présence de Dieu qui leur est offerte, sous forme que l'on représente par ces flammes. Mais de quelle manière cet esprit leur est-il donné? Quel est le véhicule de cette présence? Là encore, il faut lire le texte de près. Mais ça, c'est quelque chose que vous savez. On dit que ce qui est donné à chacun des disciples, ce sont des langues de feu. Et le mot « langue », je trouve bien dans le texte, et désigne normalement la langue, soit la langue, l'organe, soit la langue que l'on parle, la langue de la parole, autrement dit. Et donc oui, ce qui est donné, c'est une parole de feu. Donc certes, Dieu donne son esprit, mais en fait, la parole est partout présente dans ce récit. Il est présent dans les langues que reçoivent les disciples, présent dans les paroles que vont dire les disciples, dans ce qu'entendent les autres, dans les différentes langues. On dit qu'il y avait 70 langues qui étaient entendues, chacun dans sa propre langue, avec toutes les nationalités et toutes les langues. Puis Pierre commence par faire un discours, par parler, et c'est ce premier discours de Pierre qui va lancer l'Église. Donc oui, il y a là un lien que je vois indéfectible entre l'esprit et la parole. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Moïse, c'est la même chose, hein. La première fois que Moïse monte sur le mont Horeb, il voit le buisson ardent, c'est-à-dire la pure présence de Dieu. Ce Dieu, Moïse ne le voit pas, mais il lui parle. Ensuite, Moïse va redescendre, et quand il remontera sur la montagne, cette fois, il n'y a plus de feu, mais il y a une chose, c'est la parole qui lui est donnée, c'est-à-dire la Torah. Et donc, Dieu donne son esprit, et il donne sa parole, et je dirais que parole et esprit sont indissociables. Dieu a donné son esprit, Dieu donne sa parole est spirituelle, son esprit est un esprit qui nous parle, et donc parole et esprit sont indissociables dans ce récit comme dans toute la Bible. Et finalement, même la parole de Dieu, la loi de Dieu, elle est comme le feu qui éclaire. J'ai un verset d'ailleurs explicite là-dessus, Deutéronome 33, verset 2, où il est écrit « L'Éternel a envoyé le feu de sa loi, le feu de sa Torah. » Et puis dans la tradition juive, on a aussi cette même idée. Tenez, regardez ce passage du Talmud qui dit la chose suivante. Rabbi Pinhas dit « La loi donnée par le Seigneur à Moïse était un feu blanc » en lettres blanches sur un fond noir. Et la loi même est pétrie de feu, taillée dans le feu, entourée de feu, selon le verset que je vous ai cité, à sa droite, une loi de feu leur est donnée. Et donc oui, ces langues de feu, ce sont donc des paroles de feu qui leur sont données. Certes, Dieu donne son esprit, mais avant tout, je pense que ce que nous dit le texte est que ce qui va éclairer, illuminer, dynamiser ses disciples, c'est une parole de feu. Et que la parole de l'Éternel, cette parole de l'Écriture, c'est une parole de feu, c'est une parole de lumière, une parole de force, de chaleur et de vie. C'est ce que nous disons également dans ce verset par lequel nous concluons souvent nos lectures, quand on dit... C'est ce verset du psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. » Oui, cette parole, c'est la flamme qui éclaire mon propre chemin. Et je crois donc que, finalement, nous qui espérons tous, dans cette fête de Pentecôte, recevoir de la même manière l'Esprit, et nous nous disons, certes, les disciples, ils ont reçu l'Esprit. Bon, on est très contents pour eux et je veux bien le fêter autant que vous le voudrez. Mais en fait, si nous le fêtons, c'est bien pour nous dire que nous aussi, on voudrait recevoir cet Esprit qui donne tant de force, tant d'intelligence, tant de dynamisme, tant de vie. Et nous voudrions être comme ces disciples, avoir nos propres flammes de feu qui nous sont offertes. Eh bien, je vous le dis, frères et sœurs, ces flammes de feu, elles sont présentes, ont surgelé dans la Bible. Elles sont là, elles brillent pas encore tout à fait, mais elles sont présentes. Vous avez là, on quitte, je dirais, toutes les flammes de la Pentecôte qui sont présentes. Parce que le texte de la Bible, c'est plus que de la simple parole morte. Il y a dans ce texte une force de vie, une puissance qui peut illuminer vos existences. Et même, dirais-je, si vous voulez recevoir l'Esprit, eh bien l'Esprit, il est tout présent dans ces lignes. Dans ces lignes, il y a 3000 ans de piété, 3000 ans de croyants qui écoutent l'Éternel, qui méditent sa parole et qui vivent de la foi et de la fidélité à l'Éternel. Eh bien, il y a dans ces paroles des textes qui sont tout ruisselants de l'Esprit de Dieu. Vous savez que l'on parle... Parfois, en théologie, on parle de l'inspiration de l'Écriture. On dit, bien sûr, la Bible n'est pas dictée par Dieu. Elle le serait, il n'y aurait pas d'esprit. Parce que, dit bien d'ailleurs la Bible, la lettre tue. C'est l'esprit qui fait vivre. Donc non, la Bible n'est pas dictée par Dieu, ce n'est pas la lettre de la parole de Dieu. Mais nous disons habituellement que la Bible est inspirée par Dieu. Ce n'est pas pour savoir si ce qui est dedans est vrai, adaptable, pas adaptable, mais j'aime cette idée de l'inspiration du texte. Inspiration, cela veut dire ce texte est tout plein de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour dire qu'il soit infaillible, mais pour dire qu'il y a dedans tout l'Esprit de Dieu qui s'y trouve, il est présent entre ces lignes, et il faut pour ça le réchauffer, il faut le frotter comme la lampe d'Aladin pour que le génie sorte, pour que l'Esprit surgisse de ces textes. Il faut réchauffer cette parole dans son cœur, et à ce moment-là, tout l'Esprit, toute l'intelligence de ce texte s'en libère et peut nous vivifier. Donc autrement dit, il n'y a pas à attendre passivement que l'Esprit de Dieu nous soit donné. Il faut simplement aller le chercher là où il est et raviver la flamme de notre esprit, de l'Esprit de Dieu qui nous est offert. Ranimer la flamme de la parole. L'image me plaît. Et pas seulement parce que nous sommes la paroisse de l'étoile et que régulièrement les gens, les hommes d'État et autres vont ranimer la flamme. Je dirais que ici même, dans cette paroisse de l'étoile, tous les dimanches à 10h30, nous ranimons la flamme, mais pas celle du soldat inconnu ou de je ne sais qui, nous ranimons la flamme du Saint-Esprit et la flamme de l'Évangile. Alors comment faire ? Eh bien, regardez les apôtres. Les apôtres, avant la Pentecôte, ils avaient aussi la parole. Ils avaient entendu Jésus, ils connaissaient son enseignement mieux que nous. Ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur mieux que nous. Et pendant les 50 jours qui ont précédé la Pentecôte, ils sont restés enfermés avec leurs souvenirs, avec leurs enseignements. Et que faisaient-ils d'ailleurs avant la Pentecôte ? Mais je crois qu'ils ne faisaient à peu près rien, ou si sans doute qu'ils devaient lire et relire l'Évangile, méditer l'Écriture, ils priaient, et pendant 50 jours, il ne s'est rien passé du tout. Pendant 50 jours, ils ont lu l'Écriture sans une trace d'esprit, ils ont prié sans une trace de réponse de la part de Dieu, ils ont évoqué l'Évangile sans que cet Évangile ne puisse être pour eux la moindre source de vie ou d'espérance. Ça, c'est absolument extraordinaire. Cela montre que dans tout ce processus de la foi qu'est le nôtre, la Bible, dès le début, montre qu'il y a une dimension du temps. Et nous n'aimons pas ça. Je rencontre des gens qui disent « Je voudrais avoir de l'espérance, je voudrais avoir la foi. » Je leur dis « Lisez la Bible. » Ils lisent 3 jours et ils disent « J'y comprends rien, ça m'ennuie, j'arrête. » Eh bien, il fallait la lire au moins 50 jours. Voilà, 50 jours. Ben, très bien, faites au moins ça. Lisez la Bible tous les jours pendant 50 jours. Ce sera déjà un bon début. 50 jours, ouais. Et puis si c'est pendant un an, c'est encore mieux. Et pendant 50 ans, votre vie sera illuminée d'Esprit Saint et illuminée de lumière. Oui, la Bible n'est pas... Elle est pleine de l'Esprit, mais il faut frotter un peu longtemps pour qu'elle brille. Et il faut de la patience. Et certainement qu'au début, et souvent, ou même après encore... Quand on lit ces textes, quand on lit ces psaumes, l'Esprit n'est pas toujours là, il ne brille pas. Et au début, cela peut sembler ne rien apporter, mais je crois qu'un beau jour, ces textes peuvent illuminer votre vie. D'ailleurs, j'ai trouvé encore dans la tradition juive, mais comment faire autrement pour interpréter ces textes que de se référer à la tradition juive ? Que sans doute par une sorte d'antisémitisme incompréhensible, les chrétiens ont mis de côté pendant des siècles et des siècles, et même les grands exégètes protestants allemands de la fin du XXe siècle lisaient ces textes en faisant comme si les juifs n'avaient jamais existé, ce qui est une chose absolument incroyable. Et bien voilà ce que dit la tradition juive dans le Talmud à propos de la Pentecôte. Il raconte une histoire très touchante. On nous dit que deux rabbis, donc Eliezer et Yoshua, étudiaient les paroles de la Torah, c'est-à-dire de la loi, du Pentateuque, quoi. Et de la Torah, ils passèrent aux prophètes, et des prophètes aux écrits. Alors, le feu du ciel descendit sur eux et les encercla. Et Abouya leur dit, « Messieurs, est-ce que vous voulez donc incendier ma maison ?» Ils lui dirent, « Non pas. » mais nous étions là, lisant les mots de la Torah les uns après les autres. Et de la Torah, nous sommes passés aux prophètes, et des prophètes aux écrits. Alors, les mots exultèrent, comme autrefois lorsqu'ils furent donnés au Sinaï, et des flammes les caressèrent, comme elles les avaient caressés au Sinaï. Ce texte est incroyable parce que c'est exactement l'histoire de la Pentecôte, telle qu'elle nous est donnée dans les Actes des Apôtres. Et je vous rappelle que ceux qui étaient dans la chambre haute à ce moment-là connaissaient ce texte par cœur, évidemment. Et vous voyez, il y a donc beaucoup plus important que de se demander s'il y a eu à la Pentecôte un phénomène miraculeux, avec des flammes ou pas des flammes, etc. Parce que nous voyons là que ces flammes de feu que nous indique le texte, eh bien ce sont les lettres de la parole de Dieu qui s'illuminent et qui deviennent vivantes, au point de risquer de mettre le feu à toute la maison. Et là, ça me touche beaucoup, parce que du coup, cela veut dire que cette histoire de la Pentecôte, ça devient une expérience que je peux faire et que chacun peut faire. Si l'on en reste au phénomène pur, alors je suis exclu de l'affaire. Et comment pourrions-nous fêter année après année un événement miraculeux qui aurait concerné uniquement quelques disciples il y a 2000 ans, mais aujourd'hui je n'ai jamais vu une seule flamme de feu en vrai se poser sur la tête de personne. Et donc j'avoue, je vais vous dire, j'en ai un peu assez de ces bonnes nouvelles éculées, de ces bonnes nouvelles qui concernent des gens d'il y a 2000 ans, dont on se dit « c'est merveilleux, ils avaient de la chance » et nous, rien. Pas de flamme de feu, pas de vent, pas de parole, rien. Mais comment une bonne nouvelle d'il y a 2000 ans peut être une bonne nouvelle pour aujourd'hui? Si ce n'est de se dire que la Pentecôte, c'est votre expérience à vous, c'est ce que vous pouvez expérimenter aujourd'hui, demain ou tous les jours. Parce qu'en fait, tous les dimanches, nous fêtons la Pentecôte. Et donc oui, ce n'est pas juste un phénomène, et la foi chrétienne n'est pas la nostalgie, ce n'est pas non plus le voyeurisme théologique de se réjouir d'un phénomène qui aurait eu lieu pour quelqu'un, mais c'est une bonne nouvelle pour moi, pour vous, ici et maintenant. Et du coup, si je comprends que, effectivement, ces flammes de feu, ce sont ces paroles qui pendant des jours et des jours étaient obscures pour les disciples, tout à coup s'illuminent, deviennent incandescentes et deviennent pleines de flammes et pleines de feu au point de mettre en flammes les disciples et toute l'Église, alors vu comme ça, oui. Parce que ça, je le crois et je peux dire que moi-même, je l'ai expérimenté. Et parfois encore, la parole de Dieu à moi me semble morte, noire, obscure, et parfois aussi elle devient du feu, elle devient la vie, elle éclaire, elle réjouit, elle réchauffe le cœur. Mais en même temps, je vous ai parlé de temps tout à l'heure, mais quelle patience chez ces rabbis qui ont vu ces lettres du texte noir tout à coup s'enlever dans le ciel et devenir des lettres de feu se poser sur eux. Quelle patience, parce qu'on nous dit qu'ils ont commencé par lire la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et là, est-ce qu'il y avait des flammes de feu? Non, rien. Qu'un texte noir sur fond blanc, rien. De la Torah, ils sont passés aux prophètes. Donc, Deutéronome, ensuite Exode, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, Samuel 1 et 2, Roi 1 et 2, les chroniques, tout ça, ils l'ont lu. Je vous ai dit 50 jours tout à l'heure. Combien de jours metteriez-vous à lire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, Samuel 1 et 2, Roi 1 et 2, Livre des chroniques, et encore et j'en passe. Mais toujours rien. Moi j'ai mis 3 ans à lire l'Ancien Testament. 3 ans d'obscurité, pour tout vous dire. Mais eux continuent. Et ensuite, de là, il passe aux autres prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchias, Esdras, Ézéchiel, Esdras, etc., tous les prophètes. Et de là, il passe aux écrits. On continue encore. Les proverbes, les psaumes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Et là, tout à coup, la parole devient lumière. Mais quelle patience! Ça veut dire que pendant des jours, des semaines et des années, ils ont lu un texte qui ne leur donnait aucune lumière, aucune flamme, aucune chaleur, aucun dynamisme. Donc oui, il faut de la patience. Mais en même temps, tout ce que je vous dis, j'en suis convaincu, mais je voudrais apporter un correctif. Un correctif, d'accord. Effectivement, l'esprit ruisselle de la parole, c'est vrai, et je dirais cherchez et vous trouverez, mais il y aurait un risque d'interprétation volontariste de ce que j'ai dit, comme s'il suffisait de travailler et comme si je disais lisez la Bible et vous recevrez l'esprit. Ça n'est pas faux, mais ce que je lis aussi dans ce passage, c'est que les disciples reçoivent l'esprit. Ils ne le gagnent pas, ils le reçoivent. Et en effet, je crois que, oui, ce n'est pas une récompense qui leur est donnée en disant qu'ils avaient suffisamment étudié. Ils le reçoivent, parce que tout seul, il est impossible de se hisser jusqu'à Dieu. Et la fête de la Pentecôte, c'est la fête du don de l'Esprit. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut rajouter à ce que je vous ai dit, c'est que le Saint-Esprit nous est aussi donné. Et il coule de Dieu comme une source inépuisable. Ce n'est pas une énergie à chercher au fond de soi-même. Alors certes, oui, c'est à nous de chercher, de quêter, de lire et d'étudier, mais peut-être qu'avant tout, il faut savoir recevoir, s'ouvrir à une réalité autre, sortir de soi. Dieu n'arrête pas de nous donner son esprit, et finalement nous devons nous ouvrir à Dieu lui-même qui veut nous le donner. Et également, corriger ce que j'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure d'une religion individuelle. Certes, mais en même temps, dans ce récit, chacun n'était pas tout seul dans son coin. Ils étaient ensemble, en communauté. Et donc, il y a là aussi une dimension communautaire. Être avec d'autres, être en église, dirais-je, ça, c'est absolument essentiel. Et même ce groupe, il était extrêmement bigarré. Il n'y avait pas que les bons juifs de Jérusalem, des beaux quartiers de Jérusalem, parlant hébreu. Il y avait toutes les nationalités. Et ça, moi, ça me fait penser aussi à une chose, c'est que si nous voulons recevoir de l'esprit, nous devons apprendre à nous ouvrir, à nous ouvrir aux autres et à nous ouvrir à l'altérité, c'est-à-dire nous ouvrir à l'autre avec un grand A. S'ouvrir aux autres, accueillir, écouter, comprendre, ça c'est une bonne base pour s'ouvrir à Dieu qui est le tout autre. Et en effet, je crois qu'il est difficile de rencontrer Dieu en restant chez soi ou entre soi. Et alors là, je vous ai dit, certes, ils sont ensemble, et tous ces gens-là fêtaient la Pentecôte. Je vous l'ai dit, c'était une fête juive. Et pendant cette Pentecôte, que faisaient-ils? Eh bien, dans toute fête juive, on lit les textes bibliques encore. Tiens, donc, j'avais pas si faux que ça. Mais ils le lisent à plusieurs. Et j'imagine qu'avec toutes ces nationalités présentes, nous qui en France, sans arrêt, avons peur de l'étranger, nous sommes dans le repli identitaire, et même nos paroisses, finalement, nous préférons quand même être avec des gens qui nous ressemblent. Je suis pareil, je ne vais pas le critiquer, mais néanmoins, je crois que l'ouverture à l'autre et à celui qui n'est pas comme moi est une ouverture essentielle pour m'ouvrir à Dieu. Parce que si vous ne fréquentez que les gens qui sont comme vous, vous ne rencontrerez jamais Dieu, parce que Dieu n'est pas comme vous. Dieu, c'est l'autre. Dieu, il est différent. Et je ne peux accueillir cette puissance extraordinaire de l'esprit qui vient d'un tout autre que si je suis moi-même capable de sortir de mon propre modèle et de mon propre égoïsme, autrement dit. Et j'avoue que d'étudier la Bible avec d'autres qui ne voient pas même de la même façon que soi, donne une fécondité extraordinaire. Et les études bibliques, moi-même, j'en ai fait encore une jeudi dernier avec un groupe ici de paroissiens, j'apprends des choses extraordinaires dans les études bibliques. Parce que les autres me donnent un regard que je n'avais jamais eu et m'empêchent de tourner en rond. Et finalement, vous disais-je, tout ce travail des disciples n'a été qu'un travail préparatoire. Dans le fond, les disciples reçoivent. Et Dieu nous donne. Dieu nous donne son esprit, je le crois. Il nous donne son souffle de vie. Il nous donne une puissance qui nous fait avancer, qui nous met en mouvement, qui console, qui libère. C'est une source de vie surnaturelle, c'est ça le Saint-Esprit, c'est le souffle d'une autre vie qui transforme nos existences et qui peut nous transformer comme il a transformé ses apôtres qui étaient retirés, déprimés, isolés. Et cet esprit qui redonne vigueur, qui redonne la force d'aller vers les autres, le courage de parler, de témoigner, de transmettre et de vivre. Cette Pentecôte, vraiment, c'est effectivement ce que nous célébrons, je crois, tous les dimanches, de cet esprit de vie, de force, de sagesse, d'intelligence, de paix, d'amour et de fraternité qui nous est donné en abondance à travers tous ces médias qui nous sont offerts, bien sûr de la parole, mais aussi de la communauté, de la relation fraternelle, de l'ouverture à l'autre et de cette quête insatiable dans laquelle chacun apprend à sortir de soi, sortir de sa propre langue pour s'ouvrir à ce tout autre qui est Dieu et qui nous donne son esprit de vie. Amen.